Donc ce message ne sera pas un message tel que nous avons l'habitude de l'entendre. Alors je suis un petit peu, comment on va dire ça, impressionné parce que nos amis sont là et je vais parler du message du mouvement irrésistible dont on a parlé les dimanches passés. Alors j'en avais jamais entendu parler, donc j'ai pas fait la journée de prière, c'est ça, il y avait une soirée de prière, je ne l'ai pas fait parce que je ne savais pas du tout ce que c'était, j'ai été le voir après. Donc irrésistible, c'est un mouvement de prière, mais pas que ça. Je n'apporte aucune réponse, donc aujourd'hui ça ne va pas être un message tel quel. Je vais plutôt apporter plein de questions que je me pose, que peut-être vous vous posez, qui restent en réflexion pour moi et qui peut-être le seront aussi pour vous. J'admire les engagements des uns et des autres pour l'accueil de nos amis étrangers et je me sens certainement en décalage avec cela, je dois l'avouer. Je ne peux pas dire que je suis à fond dedans. Aussi, peut-être pourrons-nous les uns avec les autres, et c'est là le but de l'Église, je pense, peut-être qu'on pourra les uns avec les autres faire de ce mouvement un projet d'Église. Je reviens tout d'abord à l'origine de ce mouvement. Donc j'ai eu la curiosité d'aller voir sur Internet ce qu'est le mouvement irrésistible. Alors ce que je me suis permis de mettre, c'est une phrase de Sonia Renée Taylor qui dit « Nous ne reviendrons pas à la normale ». C'est vrai que nous sommes en période de Covid, il n'y a jamais eu de normal. Notre existence pré-corona n'était pas normale. Nous avions simplement normalisé la cupidité, l'iniquité, l'épuisement, l'extraction, la déconnexion, la confusion, la rage, la thésaurisation, la haine, la pénurie. Nous ne devrions pas désirer y revenir, mes amis. On nous donne la possibilité de coudre du nouveau, un nouveau vêtement, celui qui convient à l'humanité et à la nature. Je me suis dit, c'est vrai, on est dans un moment où on se pose la question, on dit, il y a des complots, il y a des choses comme ça, il y a des choses bizarres, le coronavirus nous empêche d'être les uns avec les autres. Et bien, je pense que ce moment-là, c'est un moment important où il faut se poser les bonnes questions. Et demain, ce ne sera pas la même chose qu'hier. C'est vraiment mon désir. Donc, Irrésistible, c'est un week-end. C'est passé d'un week-end à un mouvement. Voilà plus d'une année que le CMMF, donc c'est la commission... Ah mais je vais te laisser la parole parce que tu le dis mieux que moi. Tu sais, moi, avec les informations, j'ai quelques soucis.
C'est la mission mennonite de France.
Voilà, avec l'EMF.
Sur des églises évangéliques mennonites de France.
Et donc l'église de la prairie de Montbéliard. C'était donc un mouvement qui était...
Et non pas de Montélimar.
De Montbéliard, tout à fait. C'est vrai qu'au début, j'étais arrivé ici, ils aiment bien plaisanter avec ça, mais au début, j'étais là, j'ai confondu Montbéliard et Montélimar. Donc, oui, c'est pas tout à fait au même endroit. Donc, c'était tout d'abord un week-end qui était prévu en octobre 2020. Je cite. Nous avions prévu un programme autour de Joel Edwards, donc ça doit être un prédicateur, puis le Seigneur nous a conduits vers trois orateurs francophones, nous rendant ainsi attentifs à ceux qui travaillent déjà sur le sujet en France. Tout était planifié. L'équipe de louanges, c'est une super église hein, à Montbéliard. Ils sont au moins 10 fois plus que nous. Avec des musiciens à 15 fois Marie Noël. Bon, n'exagérons pas. Excuse-moi, Marie, je me regarde avec des gros yeux.
Avec une chorale,
voilà. Donc tout était planifié, l'équipe de louanges, les ateliers, les exposants, les témoignages. Puis, nous avons eu droit à un virus qui a mis la pagaille dans le monde entier. Et nous avons dû reporter ce week-end en octobre 2021. Mais le Seigneur n'avait pas dit son dernier mot. Il nous conduisait vers quelque chose qui n'était pas prévu. Nous mettre simplement en mouvement, à sa suite, à vous entraîner avec nous. L'objectif de ce programme, leur objectif, était de proposer de réfléchir ensemble à redécouvrir en Église la perspective du projet de Dieu pour la mission, à partir d'une déclaration unie des évangéliques du monde entier, dite du Cap, établie lors du 3e congrès de Lausanne pour l'évangélisation du monde, qui a rassemblé 4200 responsables évangéliques de 198 pays en octobre 2010 au Cap. C'était un texte de référence qui viendra stimuler d'une façon incomparable notre réflexion, notre compréhension du projet de Dieu et nos idées d'action concrètes pour aujourd'hui. L'Évangile est vraiment une bonne nouvelle qui apporte une réponse globale à un problème global. Voici le site internet. Alors, j'ai eu du mal à le trouver, mais finalement, quand on y va, c'est super. La motivation profonde de ce programme. Nous croyons que le projet de rédemption de toute la création par Jésus-Christ est le projet le plus incroyable et le plus révolutionnaire jamais mené sur Terre. Notre souhait est que nous puissions personnellement et en Église, et moi j'insiste vraiment sur en Église, que nous puissions accueillir de façon nouvelle l'appel de Dieu adressé à son Église, d'être un peuple en bénédiction dans notre monde, et en particulier ici maintenant et autour de nous. Deuxièmement, nous laisser interpeller par le projet missionnaire de Dieu qui nous concerne tous et nous dépasse. Troisièmement, dépasser les freins d'une vision limitée de la mission. Il y avait trois axes de cheminement. Le premier, c'était prier. Et on l'a vu donc avec ce que tu avais expliqué la semaine dernière, le soir où il y avait une prière en commun.
Il y avait une journée de jeûne et de prière.
De jeûne et de prière, merci. Deuxièmement, réfléchir à une vision missionnaire renouvelée. Troisièmement, nous mettre en mouvement en tant qu'ambassadeurs de Christ. Irrésistible, c'est comme l'amour de Dieu pour les hommes. Et Florine l'a dit tout à l'heure, l'amour de Dieu pour les hommes avec la venue de Jésus. Irrésistible, c'est comme la victoire de Jésus sur toute forme de mal. Irrésistible, c'est comme le projet de restauration de Dieu pour le monde. Irrésistible, c'est comme l'appel de Dieu à le rejoindre dans son projet. Ce matin, je voudrais vous partager mes réflexions justement sur l'accompagnement de ceux qui souffrent ou ceux qui vont être amenés à souffrir quand je pense à ce virus, à ce qui se passe dans le monde entier. Je ne voudrais pas être alarmiste, mais je partage les craintes de bon nombre d'économistes. Et je vais vous citer un extrait que j'ai trouvé dans l'Express d'un chroniqueur qui s'appelle Nicolas Bouzou. Il dit « Même si par magie, l'épidémie de Covid-19 s'arrêtait totalement du jour au lendemain, son onde de choc continuerait de diffuser ses effets pendant des années. Effet sanitaire d'abord, car on ne connaît pas encore l'ensemble des séquelles du virus à long terme. Effet économique ensuite. L'épidémie a affecté la croissance structurelle mondiale en touchant à la fois le capital physique et le capital humain. Les récessions entraînent des baisses d'investissement, une montée du chômage et des faillites. L'éloignement de l'école de millions d'enfants dans le monde va aussi générer des effets économiques et sociaux délétères, dont les impacts se feront sentir pendant des années, voire des décennies. Suis-je prêt à m'engager dans ce projet, d'accompagner ceux qui souffrent? Alors que le confinement m'a isolé à la maison, parce qu'actuellement je suis en télétravail, ça fait plus d'un mois que je suis à la maison, que je vois qu'il n'y a personne à part à travers l'écran. Donc je suis allé fouiller aussi sur internet et j'ai trouvé sur le site dédié à l'engagement du CAP ce qui m'a permis de réfléchir à cette question. Nous marchons avec ceux qui souffrent. Nous marchons avec ceux qui souffrent. Premièrement, voici des questions auxquelles nous pourrions réfléchir pendant le culte, ou pendant, je dirais peut-être, des activités d'église, ou pendant le conseil d'église. Les questions, c'est qui souffre dans notre monde? Pensons à la réalité immédiate de notre communauté et de nos contacts, puis passons à des groupes plus grands, notre quartier, nos voisins, notre ville, notre département, notre région, notre pays, l'Europe, le monde. Comment les accompagnons-nous? Personne d'autre ne peut accompagner les personnes qui nous sont proches. Comment le faisons-nous? Comment voulons-nous le faire? Troisième question, de quelle manière la paix de Jésus nous appelle-t-elle à les accompagner? Je voudrais avec vous partager ce texte des Écritures qui nous dit ce qu'est l'Église. Je vous invite à lire Corinthiens, et si quelqu'un veut le lire à ma place, Ça m'arrangerait, Marie, tu veux bien le lire ? Donc c'est 1 Corinthiens 12, versets 12 à 27.
Le corps forme un tout, mais a pourtant plusieurs organes. Et tous les organes du corps, malgré leur grand nombre, ne forment qu'un seul corps. Il en va de même pour Christ. En effet, que nous soyons juifs ou grecs, esclaves ou libres, nous avons tous été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. Et nous avons tous bu à un seul esprit. Ainsi, le corps n'est pas formé d'un seul organe, mais de plusieurs. Si le pied disait « puisque je ne suis pas une main », je n'appartiens pas au corps. Ne ferait-il pas partie du corps pour autant ? Et si l'oreille disait, puisque je ne suis pas un œil, je n'appartiens pas au corps, ne ferait-elle pas partie du corps pour autant ? Si tout le corps était un œil, où serait lui ? S'il était tout entier lui, où serait l'odorat ? En fait, Dieu a placé chacun des organes dans le corps comme il l'a voulu. S'ils étaient tous un seul organe, où serait le corps ? Il y a donc plusieurs organes, mais un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main « je n'ai pas besoin de toi », ni la tête dire au pied « je n'ai pas besoin de vous ». Bien plus, les parties du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires, et celles que nous estimons les moindres. Être les moins honorables du corps, nous les entourons d'un plus grand nombre. Ainsi, nos organes les moins décents sont traités avec plus d'égard, tandis que ceux qui sont décents n'en ont pas besoin. Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ceux qui en manquaient, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que tous les membres prennent également soin les uns des autres. Si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Vous êtes le corps de Christ, et vous êtes ses membres, chacun pour sa part.
Merci. C'est dans notre assemblée locale que nous rencontrons les premières difficultés à être le peuple de Dieu et à vivre l'appel de Dieu. Le texte de 1 Corinthiens 12 nous aide à y faire face. Quelles sont les difficultés que rencontre notre assemblée dans l'accompagnement de ses propres membres ? Certaines questions provoquent-elles plutôt la discorde que la paix ? Y a-t-il un esprit de rivalité ? Comment répondre à ces défis ? Quel exemple d'accompagnement connaissons-nous ? Comment soutenons-nous ces efforts et encourageons-nous ces relations en tant que disciples du Christ ? Quels sont les exemples de la manière dont nous avons besoin les uns des autres ? Quelles difficultés rencontrons-nous pour soulager ceux qui souffrent au sein de notre communauté ? Comment partageons-nous leur cheminement ? Comment se réjouir avec les membres de notre communauté et les honorer ? Comment marcher avec eux ? Je vous l'ai dit, je n'ai que des questions. Si vous avez les réponses, je suis preneur. Nous marchons avec ceux qui souffrent. Troisièmement, avons-nous dans la Bible un exemple d'accompagnement de ceux qui souffrent ? Il y a un texte que je voudrais partager avec vous. Edith, est-ce que tu pourras le lire ? C'est dans Ruth. Si t'arrives, tu vois, il ne gêne pas le câble. Okay. C'est Ruth 1, les versets 1 à 17.
À l'époque des juges, il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem, de Juda, partit avec sa femme et ses deux fils s'installer dans le pays de Moab. Le nom de cet homme était Élimélec, celui de sa femme Naomi. Et ses deux fils s'appelaient Mahlon et Kishon. Excusez-moi du. Ils étaient Éphratiens de Bethléem, en Juda. Arrivés au pays de Moab, ils s'y établirent. Élimélec, le mari de Naomi, mourut. Et elle resta avec ses deux fils. Ils prirent des femmes moabites, l'une s'appelait Orpa et l'autre Ruth, et ils habitèrent là environ 10 ans. Mahlon et Kishon moururent aussi tous les deux, et Naomi resta privée de ses fils et de son mari. Alors elle se leva, elle et ses belles-filles, afin de quitter le pays de Moab. En effet, il y avait elles y avaient appris que l'Éternel était intervenu en faveur de son peuple et lui avait donné du pain. Elle partit de l'endroit où elle habitait, accompagnée de ses deux belles filles, et elle se mit en route pour retourner dans le pays de Juda. Naomi dit à ses deux belles filles, « Allez-y, retournez chacune dans ta famille de votre mère. Que l'Éternel agisse avec bonté envers vous, comme vous l'avez fait envers ceux qui sont morts et envers moi. »
Tu continues, Daniel.
« Que l'Éternel fasse trouver à chacune du repos dans la maison d'Amalie. » Puis elle les embrassa. Elles se mirent à pleurer tout haut et lui dirent, « Nous, nous irons avec toi vers ton peuple. » Naomi dit, « Retournez chez vous, mes filles. Pourquoi viendriez-vous avec moi? Suis-je encore en état d'avoir des fils qui puissent devenir vos maris? Retournez chez vous, mes filles. Allez-y. Je suis trop vieille pour me remarier. Et même si je disais, j'ai de l'espérance, même si cette nuit, j'étais encore avec un homme et que je mette au monde des fils afin de me dire, pour cela qu'ils aient grandi, refuseriez-vous pour cela que de vous marier? Non, mes filles. Car à cause de vous, je suis dans une grande amertume, parce que l'Éternel est intervenu contre moi. » Elle se remit à pleurer tout haut. Orpa embrassa sa belle-mère, mais Ruth y resta attachée. Naomi dit à Ruth, « Tu vois, ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne chez toi comme elle. » Ruth répondit, « Tu ne me pousses pas à te laisser, à repartir loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu habiteras, je mettrai. Ton peuple sera mon peuple et ton peuple sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite avec la plus grande sévérité si autre chose que la mort me sépare de toi. »
Merci. L'histoire de Ruth et de Naomi est celle des personnes déplacées dans notre monde. Leur parcours pour chercher à se nourrir dans un autre pays, dans une société différente, est courant aujourd'hui. Naomi en a fait l'expérience lorsqu'elle quitte son pays natal. Et Ruth aussi lorsqu'elle arrive dans un nouveau lieu de vie. Nous voyons dans ce récit des personnes déplacées qui trouvent un lieu de vie dans un nouveau pays. Elles s'y installent, se marient. Et pour Ruth, ont des enfants. Ruth est tellement intégrée à sa nouvelle patrie qu'elle se retrouve même dans la généalogie de la famille terrestre de Jésus. Que nous apprend cette histoire sur l'accompagnement des personnes déplacées dans ce monde? Quelle occasion rencontrons-nous pour accueillir des étrangers, des immigrés, des personnes déplacées dans notre communauté et leur permettre de connaître la paix de Jésus? Là, j'ai certaines réponses. Comment accompagnons-nous les personnes déplacées qui ne vivent pas dans notre communauté immédiate? Merci pour cet exemple de Ruth, de Naomi. Naomi qui veut le meilleur pour ses filles et Ruth qui veut le meilleur pour sa belle-mère. Quatrièmement, comment, en étant chrétien, porter le fardeau des uns des autres? Je vais vous lire deux passages. Le premier se trouve dans Galates, chapitre 6 et versets 1 à 5, et le deuxième dans Éphésiens 4, les versets 1 à 6. Et là, je vais les lire. Frères et sœurs, si un homme vient à être surpris en faute, vous qui êtes spirituel, redressez-le dans un esprit de douceur. Veille sur toi-même, de peur que toi aussi tu ne sois tenté. Portez les fardeaux les uns des autres et accomplissez ainsi la loi de Christ. Si quelqu'un pense être quelque chose alors qu'il n'est rien, il se trompe lui-même. Que chacun examine ses propres œuvres. Et alors il aura de quoi être fier par rapport à lui seul et non par comparaison avec un autre. Car chacun portera sa propre responsabilité. Le deuxième passage, je trouve dans Éphésiens 4, les versets 1 à 6. Je vous encourage donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, c'est Paul qui parle, à vous conduire d'une manière digne de l'appel que vous avez reçu, en toute humilité et douceur, avec patience. Supportez-vous les uns les autres dans l'amour. Efforcez-vous de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps et un seul esprit, de même que vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous. Il est au-dessus de tous, agit à travers tous et habite en nous tous. Dans ces deux passages, nous revenons à la question de l'accompagnement mutuel sur le chemin de la vie. L'accent est mis sur l'assemblée locale. Mais comme nous l'avons déjà vu, Dieu veut que nous nous comportions avec tous, comme nous le faisons avec nos frères et sœurs. Quelles sont nos difficultés à nous accompagner mutuellement au sein de l'assemblée locale ? Malheureusement, on l'a vu à travers la parole de Dieu dans la Bible, il était souvent plus facile de nous séparer que de faire le dur travail de paix et de réconciliation. Comment pouvons-nous nous réconforter, avoir de la patience et porter des fardeaux les uns des autres? Comment pratiquons-nous l'amour les uns des autres et gardons-nous l'unité de l'esprit? C'est notre défi. Vivre la paix de Jésus dans nos relations immédiates au sein de notre paroisse, de notre église, de notre communauté. C'est celui de la vie chrétienne normale en tant que peuple de Dieu. Pourquoi ? Parce qu'il y a une seule espérance, un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père. Où l'Esprit nous parle-t-il en tant qu'église ? Pour vivre la vie de grâce alors que nous nous accompagnons mutuellement dans notre marche quotidienne ? Ce n'est pas une connaissance intellectuelle. C'est une réalité relationnelle à laquelle nous sommes tous appelés en tant que disciples de Jésus. Nous sommes appelés à nous réconforter mutuellement, à porter les fardeaux les uns des autres, à être patients les uns avec les autres, à nous aimer les uns les autres, à nous garder dans l'unité de l'esprit, parce que nous avons une seule espérance, un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Un seul Dieu et Père. En conclusion, revenons à nos trois questions d'ouverture. Première question, c'était « Nous marchons avec ceux qui souffrent ». Et on a vu quatre points. Ces quatre points, les voici. On s'est posé déjà des questions. Ensuite, nous avons posé la question sur l'unité dans l'Église. Nous avons regardé un exemple, avec l'exemple de Ruth et Naomi. Et nous avons regardé ce que Paul nous demande d'être et de faire dans l'Église. Quelle est la volonté de Dieu alors que nous entendons sa parole et y obéissons ? Donner l'occasion de discuter et d'agir selon ce qui est le plus approprié dans notre communauté. Partager ce que l'Esprit nous dit avec une autre personne et vice-versa. Prier les uns pour les autres. Marchons ensemble pour faire ce que nous entendons l'Esprit dire à l'Église. Je m'invite, et je vous invite aussi, à rejoindre le mouvement irrésistible en nous engageant dans la prière. Parce que prier, c'est saisir le magistral plan de sauvetage de Dieu pour l'humanité, se l'approprier comme une vérité fondamentale et s'y intégrer. Prier me garde en relation avec Dieu. Prier me transforme. Prier change mon regard sur le monde. Et cette réflexion, je l'ai prise d'un auteur des États-Unis qui parlait de l'accompagnement de ceux qui souffrent. Voici les différents points. Ceci est notre espoir. Je pourrais terminer par la prière. Notre Père Céleste, merci pour le sacrifice de Jésus-Christ, ton Fils, qui est né pour nous, mais qui est mort aussi pour nous, afin que nous puissions par son intermédiaire, nous approcher de ton trône, afin de connaître, de te connaître et de te servir. Par Jésus, tu as brisé le mur d'hostilité qui nous sépare, et tu nous as donné de connaître par grâce ta paix et ton amour pour l'humanité. Mais Seigneur, nous avons oublié ou ignoré cette offrande de paix. Nous reconnaissons aujourd'hui ton caractère doux et persévérant qui a transformé notre désobéissance en liberté et en confiance. En priant avec toi, par ton Saint-Esprit, nous nous en remettons à ta volonté toute puissante qu'habite en nous pour opérer des changements dans le monde. Nous sommes reconnaissants, Seigneur, notre Dieu. Nous réalisons, Seigneur, ton intention de montrer ton immense sagesse par le moyen de l'Église, aux dirigeants et aux autorités du monde. Nous, le corps du Christ, contemplons ton projet éternel et nous nous approchons de ton trône pour nous engager pour la protection de nos frères et sœurs, la protection de notre terre. Pardonne-nous, Père, d'avoir rompu le lien de paix avec nos sœurs et frères par des actes imprudents et dangereux, des lois injustes et des paroles dures. Nous nous reconnaissons coupables devant toi et nous baissons la tête de honte. Nous sommes dans l'angoisse, Seigneur notre Dieu. Que ton Esprit Saint nous aide, nous l'Église, à réaliser que la solution réside dans le « nous » et non dans le « moi ». Rappelle-nous sans cesse que si un membre souffre, le corps entier souffre. Guide-nous pour tendre la main à ceux qui sont perdus, errants, exclus, démunis, en utilisant les immenses ressources mises à notre disposition par le Souverain Seigneur. Rappelle à chaque chrétien qu'il doit vivre une vie de son appel et que c'est par les actes que cet amour se manifeste le mieux. Donne du courage aux responsables des églises pour dire la vérité avec amour à ceux qui sont au pouvoir, afin que la justice règne dans tous les pays. Dieu Tout-Puissant, nous levons les yeux vers le ciel pour y trouver ta bienveillance pendant ces temps difficiles, afin que ceux qui sont fatigués trouvent du repos, que les sans-abri trouvent un abri, que les affamés soient rassasiés, que les réfugiés soient accueillis, que les captifs retrouvent la liberté et que la paix qui dépasse toute compréhension prévale. Enfin, Seigneur Dieu, aide-nous à bien nous entendre et à porter les fardeaux les uns des autres, afin d'accomplir la loi parfaite du Christ dans ce monde imparfait. Que ta glorieuse lumière brille. À toi, honneur, gloire et louange. Merci, Seigneur, notre Dieu. Nous te prions dans le nom incomparable de Jésus. Amen.